Brothers and sisters, we welcome you.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette diffusion de la réunion de formation mondiale des dirigeants sur le nouveau manuel d'instruction générale. La préparation de ces nouveaux manuels a été un travail long et difficile. Je m'appelle Frère Perry. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre des messages du président Monson et du président Packer. Nous saluons la présence des membres suivants du Collège des Douze Apôtres. Frère Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar et Quentin L. Cook. Nous avons aussi avec nous Frère Walter F. Gonzalez, de la présidence des 70, et Sœur Julie B. Beck, présidente générale de la Société de secours. Nous souhaitons la bienvenue aux autres autorités générales et aux dirigeants généraux des auxiliaires qui sont ici ou qui sont présents dans différentes églises de par le monde. Cette réunion est diffusée dans 95 pays et en 22 langues. La musique sera placée sous la direction de Sœur Vonia Y. Watkins et nous serons accompagnés à l'orgue par Frère Herbert Klopfer. Nous commencerons cette réunion en chantant le cantique numéro 5, Sauveur d'Israël. La prière d'ouverture sera faite par Ricardo Castillo, président du pieu de Salt Lake Nord en Utah.
Dear Heavenly Father, we are grateful.
Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants de cette occasion de venir à toi en prière pour recevoir des instructions de nos dirigeants concernant l'œuvre du salut. Nous sommes reconnaissants de ton Fils, notre Sauveur, et de son sacrifice expiatoire pour toute l'humanité. Nous sommes reconnaissants du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ et du rétablissement de la prêtrise et des clés de la prêtrise et des ordonnances qui nous permettent de retourner à toi. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes vivants, voyants et révélateurs que nous soutenons et que nous suivons. Nous unissons nos prières en faveur du président Monson, de la première présidence et du Collège des douze apôtres, pour la préservation de leur santé et pour que tu continues de les soutenir et de les fortifier. Fais que ton esprit puisse être avec nous et avec toutes les personnes qui sont invitées à participer et avec toutes les personnes qui sont ici pour apprendre et être instruites, pour que les enseignements que nous recevrons et que nous entendrons au sujet des nouveaux manuels d'instruction générale soient clairs dans notre esprit et dans notre cœur. Puissions-nous aussi être inspirés dans l'œuvre de sauvetage de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, et puisses-tu être satisfait de ton œuvre dans les branches, les paroisses et les pieux. Fais que ton esprit soit présent parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, amen.
It will now be our privilege.
Nous aurons maintenant la bénédiction d'entendre un message de Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après le président Monson, nous serons instruits par Daniel H. Oaks du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Quentin L. Cook, aussi du Collège des Douze Apôtres.
Mes frères et sœurs, quel plaisir de commencer cette diffusion de la réunion de formation mondiale des dirigeants en vous faisant part de quelques réflexions au sujet de la version révisée des manuels de l'Église. Chaque fois que le sujet du manuel d'instruction est abordé, je me souviens d'une expérience que j'ai eue dans les années 70, alors que j'étais responsable de l'œuvre de l'Église pour ce que nous appelions l'Allemagne de l'Est ou la République démocratique allemande. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est ne permettait pas que de la documentation de l'Église soit apportée dans le pays. Alors le président Kimball m'a demandé de mémoriser la nouvelle édition de ce que nous appelions alors le manuel d'instruction générale de l'Église pour passer la frontière de l'Allemagne de l'Est, puis de dactylographier le manuel pour les dirigeants fidèles de l'Église qui vivaient là-bas. Bien qu'il eût été impossible pour quiconque de mémoriser le livre entier, je l'ai étudié à fond et j'en ai appris les concepts de A à Z. Je me suis rendu en Allemagne de l'Est et sur place, j'ai demandé aux dirigeants de l'Église de me fournir un bureau, une machine à écrire et une rame de papier. J'ai commencé à taper la machine. Une ou deux heures et de nombreuses pages plus tard, je me suis levé pour m'étirer. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce et je remarquais, sur une étagère derrière moi, un exemplaire de la nouvelle édition du manuel d'instruction générale en langue allemande. Quelqu'un avait évidemment traversé clandestinement la frontière avec le manuel. Depuis ce temps, je connais bien le contenu de ce livre. Au mois de juillet 2010, la population totale de l'Église a dépassé les 14 millions. Le nombre de membres de l'Église a augmenté depuis son organisation en 1830 et il continuera de croître avec des milliers d'unités dans le monde entier. Il serait presque impossible de maintenir l'intégrité des règles, des modalités et des programmes de l'Église sans ces manuels qui sont partout à la disposition des dirigeants de l'Église dans toutes les langues que vous représentez. Et ils seront une ressource inestimable pour vous. Ils ont été lus et relus, corrigés et relus. La plupart d'entre vous ont leurs exemplaires. Lisez-les. Comprenez leur contenu. Suivez-les. Lorsqu'en tant que membre de la première présidence, nous nous retrouvons chaque jour pour notre réunion habituelle, nous devons, de toute nécessité, traiter et corriger les erreurs administratives commises par les dirigeants de l'Église. La plupart de ces erreurs auraient pu être évitées si les dirigeants en question connaissaient bien le manuel et s'ils avaient appliqué les règles et modalités qui sont indiquées. Au cours de ces dernières années, le bureau de la première présidence a reçu des centaines de demandes d'approbation d'actes illégitimes. Les demandes d'annulation d'ordonnances qui ont été mal accomplies, quoique moins nombreuses, se chiffrent aussi par centaines. Un domaine dans lequel se produisent fréquemment des erreurs est celui des commissions disciplinaires. Il y a en fait deux sortes de commissions. La commission disciplinaire de paroisse ou de branche et la commission disciplinaire de pieux. Chacune a une fonction différente. Et si l'on reste dans les limites de ces fonctions assez spécifiques, tout ira bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se produit. À titre d'exemple, il est arrivé que des commissions d'évêques excommunient les anciens, alors qu'en réalité, les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek dépendent de la commission disciplinaire de pieux. Si les procédures ne sont pas correctement suivies, alors nous, la première présidence, devons ratifier la mesure ou la faire refaire. Si nous ne connaissons pas bien les règles et les modalités, des aberrations peuvent se glisser dans les programmes de l'Église. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années, alors que j'étais évêque. Un dimanche matin, pendant la période d'ouverture de la réunion de la prêtrise, nous nous préparions à ordonner un jeune homme à l'office de prêtre. Ce jour-là, un membre du Grand Conseil, qui était aussi servant au temple, visitait notre paroisse. Alors que je faisais les préparatifs pour que le jeune homme soit assis face à l'assemblée, afin que nous puissions procéder à l'ordination, le membre du Grand Conseil m'arrêta et me dit « Frère Monson, je fais toujours en sorte que les frères qui vont être ordonnés le soient face au temple. » Il repositionna la chaise pour que le jeune homme soit assis face au temple. Je reconnus immédiatement une pratique non autorisée. Je vis le risque qu'elle se dépende davantage. Bien que beaucoup plus jeune que le membre du Grand Conseil, je sus ce qu'il fallait faire. Je repositionnai la chaise pour qu'elle soit de nouveau face à l'assemblée et je lui dis « Dans notre paroisse, nous faisons face à l'assemblée. » Au cours des années, nous avons dû corriger de nombreuses tentatives de modification de certains des programmes de l'Église par des dirigeants bien intentionnés. Nous avons réglé la question des bougies allumées sur la table de Sainte-Seine, avec des changements dans la durée des réunions déterminées localement, ainsi que celle de la suppression de l'école dimanche, des 3 heures de réunion dominicale, celle des méthodes pour permettre que les visites d'enseignement soient faites à des femmes rassemblées en grands groupes. La liste continue et est assez longue. Je n'essaierai pas de mentionner tous les nombreux changements, erreurs et problèmes qui peuvent survenir. La question, cependant, est que dans pratiquement la plupart des cas, si les dirigeants avaient seulement lu, compris et suivi le manuel, ces problèmes n'auraient pas eu lieu. Que vous ayez été toute votre vie membre de l'Église, ou vous que soyez un membre relativement nouveau, consultez le manuel si vous n'êtes pas sûr d'une règle ou d'une modalité. Vous pensez peut-être savoir comment traiter la situation, alors qu'en réalité, vous pouvez être sur la mauvaise voie. Il y a de la sécurité à suivre les manuels. Mes frères et sœurs, quel que soit votre appel de dirigeant actuel, les nouveaux manuels seront un trésor pour vous. Ils seront une bénédiction pour vous et pour les personnes que vous servez, si vous les lisez, les comprenez et les suivez. C'est le témoignage que je vous rends. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mes chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants du discours de présentation du président Monson. Nous relevons le défi qu'il nous lance de lire, de comprendre et de suivre ses manuels afin de maintenir l'intégrité des règles, modalités et programmes de l'Église. En faisant cela, nous accomplirons sa déclaration inspirée qui atteste que ces nouveaux manuels seront un trésor et une bénédiction pour chacun d'entre nous. La parution de ces nouveaux manuels et cette émission représentent l'étape finale d'un processus de 3 ans. Les 2 tomes de l'édition de 1998 du manuel d'instruction de l'Église, y compris la mise à jour du tome 1, paru en 2006, ont été revus ligne après ligne et révisés selon les besoins afin de servir de guide aux dirigeants généraux et locaux et au personnel du siège de l'Église au service des membres d'une Église mondiale. Cette révision a été faite en ayant pour objectif le salut des enfants de Dieu et la fortification de leur famille. Bien que les manuels n'aient pas la même autorité que les Écritures, ils représentent l'interprétation la plus actuelle des plus hautes instances de l'Église et leurs directives concernant les procédures. Pour citer le président Monson, ils ont été lus et relus, corrigés et relus. Sous la direction de la première présidence, les chapitres ont été écrits, lus et approuvés individuellement par l'épiscopat président, par les officiers généraux des auxiliaires et par les autorités générales affectées aux divers départements de l'Église. Le texte proposé a ensuite été révisé et approuvé par le Collège des 12 apôtres, assisté par la présidence des 70. Pour finir, le texte entier a été lu, amendé et approuvé par la première présidence. Tout au long de ce travail, nous avons été guidés par un doux esprit d'inspiration. Nous savons que ces manuels et les directives qu'ils contiennent, comme l'a dit le président Monson, et comme il est rappelé dans l'introduction de chaque tome, peut, je cite, « faciliter la révélation s'ils sont utilisés pour susciter la compréhension des principes, des règles et des modalités à appliquer tout en cherchant à être guidés par l'Esprit ». Fin de citation. Cette émission sera axée sur les principaux problèmes et principes abordés dans les nouveaux manuels. En février, une deuxième présentation se portera en détail sur des questions supplémentaires, comme les responsabilités propres aux présidents de pieux et aux évêques, le travail des collèges et des auxiliaires, et les difficultés particulières aux unités qui ne comptent pas suffisamment de membres et de dirigeants pour mettre en œuvre l'intégralité des programmes de l'Église. Pour commencer, je souligne, frères et sœurs de cette Assemblée mondiale des dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, que vous devez presque tous être déjà en possession d'exemplaires des nouveaux manuels dans votre langue que vous pourrez consulter au cours de cette émission. Ces nouveaux manuels sont principalement axés sur les paroisses et les branches. Les pieux et les districts y sont secondaires et il n'y a aucune information sur l'organisation ou les fonctions de l'interrégion ou de l'Église au niveau mondial. Ces manuels sont des ouvrages de référence conçus pour aider le lecteur à trouver l'information qu'il recherche. Ils sont munis d'onglets pour repérer les chapitres et sont indexés par numéro de chapitre et de section qui sont les mêmes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont édités. Ils comportent 12% de mots en moins que les manuels actuels. Il y a 2 tomes. Le manuel 1 couvre les sujets qui relèvent de la responsabilité des présidents de pieux, des présidents de mission, des présidents de district, des évêques et des présidents de branche. Seuls ces responsables et leurs conseillers auront un exemplaire du manuel numéro 1. La plupart du contenu du manuel 1 est identique à l'actuelle mise à jour à 2006 du manuel d'instruction de l'Église. Les lettres les plus récentes de la première présidence y sont incluses. Les chapitres « Devoirs du président de pieux » et « Devoirs de l'évêque » ont été raccourcis et révisés afin de présenter plus clairement les responsabilités principales. Certains textes ont été simplifiés ou réarrangés. Par exemple, ce qui touche à la suppression d'un nom des registres a été intégré dans le chapitre sur l'action disciplinaire de l'Église. Le manuel 2, intitulé « Administration de l'Église », contient tous les chapitres nécessaires pour administrer l'Église au niveau des épiscopats, des présidences de branches, des collèges et des organisations auxiliaires de paroisses et de branches. Comme vous le savez, un exemplaire de ce manuel est distribué à tous les membres du conseil de paroisse. Ainsi, les dirigeants des collèges de la prêtrise de Melchizedek, la présidente de la société de secours, celle des jeunes filles et de la primaire, le président de l'école du dimanche, leurs conseillers et conseillères disposeront de tous les chapitres qui concernent l'administration de l'Église dans les paroisses et les branches. Ainsi, chaque membre du conseil de paroisse, les femmes comme les hommes, sauront exactement quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans leur organisation. Cela permettra aussi à tous ces dirigeants d'avoir accès aux extraits des règles et directives de l'Église énoncées au chapitre 21 du tome 2. Veuillez garder à l'esprit que ces manuels, particulièrement en ce qui concerne ces règles, ne peuvent pas être dupliqués ou distribués à des personnes autres que celles autorisées. La première présidence a souhaité que le contenu du tome 2 puisse faciliter l'équilibre recherché entre l'uniformité sur la doctrine et les principes et la souplesse afin de permettre une adaptation limitée sur certains sujets là où c'est nécessaire. Selon cette directive, le tome 2 est fondé sur des principes. Il vise à réduire la complexité des programmes de l'Église. Il permet qu'il y ait une adaptation locale si nécessaire, comme dans le cas d'une nouvelle unité de l'Église ou d'une unité répartie sur un grand territoire, mais il ne remet pas en question l'uniformité des règles, modalités et programmes dont le président Monson nous a indiqué la nécessité pour l'Église entière. Comme il l'a dit à juste titre, je cite, « Ces manuels sont une sécurité ». Fin de citation. Frère Cook nous en dira plus sur les principes qui doivent guider les dirigeants dans ces domaines importants. Un autre thème majeur des manuels 1 et 2 est la réduction de la charge de travail de l'évêque. Cela est en partie possible du fait qu'une certaine souplesse est permise dans les réunions. Autre point d'égale importance, le manuel 2 vise à réduire la charge de l'évêque en augmentant le rôle du conseil de paroisse et de ses membres. Ceux-ci ne sont pas là pour représenter seulement leur collège ou organisation auxiliaire, mais avec leurs conseillers et auxiliaires, ils reçoivent une délégation pour assister l'évêque dans toutes les questions importantes pour toute la paroisse. Les dirigeants des collèges et des auxiliaires assisteront aussi l'évêque en l'aidant dans le rôle de sauvetage qui est le sien pour amener les non-pratiquants et maintenir les membres dans l'Église. Une plus grande importance est donnée au rôle du président du collège, des anciens et du chef de groupe des grands prêtres dans les nouveaux manuels. Ces dirigeants et leurs conseillers ont des responsabilités plus grandes d'aider individuellement, sur le plan spirituel et temporel, les membres du collège ou du groupe des grands prêtres. Le manuel 2 leur dit d'encourager les membres du collège ou du groupe à remplir leurs devoirs de prêtrise, en particulier ceux de mari et père. Il leur dit aussi de travailler avec leurs conseillers et les instructeurs au foyer et d'autres personnes pour toucher et servir les personnes faisant partie de leur organisation et d'autres qui ont besoin d'aide. Pour accomplir ces responsabilités ecclésiastiques essentielles, ces dirigeants de la prêtrise devront déléguer largement. Ils pourront aussi se trouver dans la nécessité de réduire certaines demandes de services temporelles, par exemple celui d'aider des membres à déménager. Le manuel 2 demande aux évêques d'affecter chaque ancien potentiel soit au collège des anciens, soit au groupe des grands prêtres, en fonction des besoins individuels. Une fois les anciens potentiels ainsi répartis, les dirigeants deviennent responsables de leur maintien dans l'Église, de leur retour à l'Église et de leur enseignement au foyer et d'autres besoins. Un président de collège des anciens est appelé et relevé par le président de Pieux après consultation avec l'évêque. Il est formé par un membre du Grand Conseil sous la direction du président de Pieux. Dans ses responsabilités dans la paroisse, le président du Collège des Anciens agit sous la direction du grand prêtre, président de la paroisse, l'évêque. Le chef de groupe des grands prêtres est appelé, relevé et dirigé de la même manière. Le tome 2 commence par trois chapitres courts qui fournissent le cadre doctrinal de l'administration de l'Église. Premièrement, la famille et l'Église dans le plan de Dieu. Deuxièmement, principe de la prêtrise. Troisièmement, dirigeant de l'Église de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui assistent à cette émission doivent lire attentivement ces trois nouveaux chapitres. Ils s'appuient sur la doctrine des Écritures. Ils sont extrêmement importants. Par exemple, le chapitre 2 décrit l'objectif général de l'Église, sujet important déjà décrit de différentes manières à différentes époques. C'est en 1981 que la première présidence a mentionné pour la première fois les trois missions de l'Église. Proclamer, perfectionner et sauver. À cette époque, la première présidence a déclaré que ces trois missions font partie, je cite, « d'une seule œuvre, celle qui consiste à aider notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ dans leur grande et glorieuse mission qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Fin de citation. Cependant, depuis 1981, nous avons vu des personnes accorder une attention excessive aux définitions et aux frontières entre ces trois domaines de l'œuvre du Seigneur, les poussant parfois à négliger le fondement doctrinal sur lequel ils reposent et oubliant d'autres éléments essentiels, comme celui de veiller sur les pauvres. Ce nouveau manuel rétablit l'importance qu'avait à l'origine un fondement de la doctrine spirituelle pour décrire la mission globale de l'Église. Dans le tome 2, la section 2.2 réitère la déclaration de 1981. Je cite, « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été organisée par Dieu pour qu'elle l'aide à accomplir son œuvre, qui est de réaliser le salut et l'exaltation de ses enfants. » Fin de citation. Concernant ce fondement doctrinal de base, la section 2.2 précise que dans ses efforts pour réaliser son objectif d'aider les personnes et les familles à se qualifier pour l'exaltation, l'Église se concentre sur la responsabilité que Dieu lui a donnée. Fin de citation. Ces responsabilités sont alors décrites et comprennent les points suivants. Aider les membres à vivre l'Évangile de Jésus-Christ, rassembler Israël par l'œuvre missionnaire, prendre soin des pauvres et des personnes dans le besoin, et rendre possible le salut des morts en construisant des temples et en accomplissant les ordonnances par procuration. Fin de citation. Le principe général énoncé à la section 2.2 est que les, je cite, les programmes et activités de l'Église ont pour but de soutenir et de fortifier les personnes et les familles. Fin de citation. Après le rappel de ce principe, nous suggérons que lorsqu'ils donnent des appels, les évêques et les présidents de branche gardent à l'esprit que leur impulsion naturelle de remplir tous les postes et de mettre en œuvre tous les programmes est moins importante que le bien-être des familles concernées. Nous pensons qu'il est souhaitable que les membres n'aient pas plus d'un appel majeur, particulièrement lorsque les deux parents sont dans cette situation et qu'ils ont des enfants en bas âge. Par contraste, avec le caractère uniforme des principes permanents et des doctrines énoncées dans les trois premiers chapitres, la plus grande partie du tome 2 consiste en des programmes et des mesures qui peuvent être amenés à évoluer à l'avenir par décision de l'autorité appropriée. Pour la plupart de ce qui est contenu dans le manuel, y compris les mesures et principes énoncés, la seule autorité ayant le pouvoir d'effectuer des changements est la première présidence. Nous devons nous souvenir que les directives ne sont approuvées et annoncées que par la première présidence. Elles ne le sont pas par les rumeurs qu'un dirigeant ou un membre colporterait à d'autres personnes. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous devez en discuter avec le dirigeant de la prêtrise qui vous préside. Seuls les dirigeants de la prêtrise détenant l'office le plus élevé sont habilités à prendre contact avec le bureau de la première présidence. Il existe une exception à cette règle, comme Frère Cook va nous l'expliquer dans un moment. Certains programmes peuvent être modifiés par les autorités locales selon les besoins dictés par des conditions régionales ou là où c'est nécessaire afin de servir les membres. Les chapitres 4, 5 et 6 sont axés sur le conseil de paroisse, l'œuvre du salut dans la paroisse et les principes d'entraide. Tous les membres du conseil de paroisse doivent étudier et appliquer ce qui est contenu dans ces chapitres pour leur participation au conseil de paroisse et dans l'accomplissement de leurs tâches au sein des organisations de la prêtrise et des auxiliaires. Ensuite, le tome 2 consacre 6 chapitres à la prêtrise de Melchizedek, à la prêtrise d'Aaron et aux 4 auxiliaires. Bien que les titres soient les mêmes que ceux du manuel actuel, ces chapitres contiennent des simplifications importantes de contenu et de présentation. Nous aurons le plaisir de suivre une discussion sur les principes et le contenu du manuel avec Antin L. Cook. La première présidence lui a confié, ainsi qu'à moi-même et à Bruce des porteurs des 70, la responsabilité de coordonner l'élaboration du nouveau manuel. Nous avons reçu une aide particulièrement précieuse de la part du département de la prêtrise de l'Église, d'autres autorités générales et du département de la corrélation et de ses rédacteurs talentueux. Tout cela, bien sûr, s'est fait sous la direction de la première présidence et a été soumis à son approbation. Je me suis senti privilégié de pouvoir contribuer à cette tâche inspirée, et je témoigne qu'elle fera avancer l'œuvre de celui dont nous sommes les serviteurs, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui je rends témoignage. Amen. Elder Cook.
C'est merveilleux et inspirant de voir des dirigeants de l'Église du monde entier rassemblés pour cette émission transmise par satellite. Nous vous aimons et nous apprécions votre engagement et votre dévouement. Nous admirons ce que vous êtes et ce que vous faites. Durant cette réunion, cette émission, nous ne pourrons pas traiter tous les chapitres des deux tomes du manuel d'instruction. Nous allons donc nous concentrer sur les principes, les domaines importants et les responsabilités qui seront les plus à même d'apporter des bénédictions aux saints et de faire avancer l'œuvre du salut. Lorsque les dirigeants de l'Église connaissent leurs devoirs et suivent les procédures établies, ils permettent au Saint-Esprit de les inspirer, eux et les personnes qu'ils servent. Je mets de nouveau l'accent sur la requête de Frère Oaks, que vous lisiez les 3 premiers chapitres du 2e tome du manuel d'instruction et méditiez à leurs propos. Ils sont fondamentaux pour l'administration de l'Église et doivent sous-tendre tout ce que vous faites. Le tome 2 du manuel contient les instructions dont les évêques et les dirigeants ont besoin pour répondre aux besoins des membres. L'évêque, en tant que grand prêtre-président, travaille par l'intermédiaire de 3 conseils liés les uns aux autres, l'épiscopat, le comité exécutif de la prêtrise et le conseil de paroisse. Le chapitre 4 contient des informations sur ces 3 conseils. L'épiscopat va fonctionner plus ou moins comme par le passé. Comme toujours, il est important qu'avant de prendre des décisions, l'évêque discute avec ses conseillers et lorsque c'est approprié avec le conseil de paroisse. Le comité exécutif de la prêtrise se réunit régulièrement pour examiner les affaires de la prêtrise, mais il n'est pas nécessaire qu'il examine celles qui seront traitées par le conseil de paroisse. En pratique, cela signifie que dans la plupart des cas, les réunions de CEP seront probablement plus courtes. Pour des raisons de commodité, ce comité pourra se réunir juste avant le conseil de paroisse. Le CEP et le conseil de paroisse assumeront toutes les fonctions qui étaient auparavant effectuées dans une réunion séparée du comité d'entraide. Par conséquent, le conseil d'entraide ne se tiendra plus. Si nécessaire, la présence de la Société de Secours peut être invitée à assister aux réunions du CEP pour discuter de questions d'entraide confidentielle et pour coordonner les affectations des instructeurs au foyer et des instructrices visiteuses. Les tomes 1 et 2 du manuel d'instruction limitent le nombre des autres réunions de dirigeants et de formation et permettent une plus grande souplesse dans la fréquence de ces réunions. L'Église est gouvernée par des conseils. Au niveau général, au niveau des interrégions, des pieux et des paroisses. Les nouveaux manuels d'instruction étendent considérablement le rôle des conseils dans l'Église. Le chapitre 4 traite des conseils de paroisse. Veuillez prendre la section 4.1. On peut lire dans le deuxième paragraphe. À chaque niveau, sous la direction des dirigeants de la prêtrise qui détiennent les clés nécessaires, les dirigeants tiennent conseil pour le bien des personnes et des familles. Les membres du conseil planifient également l'œuvre de l'Église qui se rapporte à leurs responsabilités. Les conseils efficaces incitent tous leurs participants à s'exprimer pleinement et unissent leurs efforts pour répondre aux besoins des personnes, des familles et des organisations. Le nouveau manuel d'instruction attribue un rôle plus important que celui de paroisse dans l'administration de la paroisse sous l'autorité de l'évêque. Le conseil de paroisse doit passer le moins de temps possible à traiter des questions de calendrier, de planification d'activités et autres affaires administratives. Ces réunions doivent se concentrer sur ce qui fortifiera les personnes et les familles. Ces réunions doivent être dirigées de façon à relever à la fois les besoins généraux, comme fortifier les jeunes, ou améliorer la révérence et les besoins spécifiques, comme aider et bénir des membres ayant besoin de progresser spirituellement ou qui traversent des épreuves particulières. Un conseil de paroisse efficace aidera l'évêque surchargé à déléguer. Au niveau de la paroisse, il est maintenant conseillé aux évêques de déléguer des tâches aux membres du conseil de paroisse, afin que les auxiliaires et les collèges de la prêtrise puissent exercer leur autorité et leur pouvoir. Les principes du manuel d'instruction permettent aux collèges de la prêtrise et aux autres membres du conseil de paroisse d'assumer ce surcroît de responsabilité. Premièrement, tous les membres du conseil de paroisse ont une responsabilité générale concernant le bien-être de tous les membres de la paroisse. Deuxièmement, la déclaration figurant dans la section 4.4 met l'accent sur leurs responsabilités au sein de leurs organisations respectives. Dans le paragraphe du milieu, dans la dernière phrase, on lit « Les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires ont également la responsabilité spécifique de veiller sur chaque membre de l'organisation et de fortifier chacun. » Fin de citation. Par conséquent, c'est à l'extérieur des réunions de conseil de paroisse que les membres du conseil de paroisse travaillent le plus. Ils travaillent en collaboration avec leurs conseillers, avec leurs instructeurs au foyer, les instructrices visiteuses et d'autres personnes afin de répondre aux besoins des membres relevant de l'organisation ou d'autres personnes. Par conséquent, les problèmes qui peuvent être résolus au sein du collège de la prêtrise ou d'une organisation auxiliaire doivent être traités dans cette organisation et non par l'ensemble du conseil de paroisse. L'effort principal du conseil de paroisse doit porter sur l'œuvre du salut dans la paroisse. Veuillez prendre le chapitre 5. Au début du chapitre, on peut lire l'affirmation suivante. Les membres de l'Église de Jésus-Christ sont envoyés travailler dans la vigne au salut de l'âme des hommes. Cette œuvre de salut comprend l'œuvre missionnaire par les membres, le maintien des convertis dans l'Église, la remotivation des membres non pratiquants, l'œuvre du temple et de l'histoire familiale, ainsi que l'enseignement de l'Évangile. Aidé par d'autres membres du conseil de paroisse, l'épiscopat dirige cette œuvre dans la paroisse. Il faut souligner trois points au sujet des conseils de paroisse. Premièrement, cette réunion devra se tenir régulièrement et probablement plus souvent qu'auparavant. Généralement, elle n'excède pas 60 à 90 minutes. Deuxièmement, les membres du conseil, frères et sœurs, doivent pouvoir s'exprimer honnêtement sur tous les sujets, en s'appuyant à la fois sur leur expérience personnelle et sur leur position de dirigeant d'organisation. Chacun doit avoir le sentiment que ses commentaires sont appréciés en tant que participant à part entière. Troisièmement, les membres du Conseil doivent toujours protéger la confidentialité des informations délicates ou d'ordre privé concernant les membres, les familles et les sujets abordés. Les membres du Conseil doivent respecter la vie privée des individus et des familles et être conscients que seul l'évêque traite des questions de dignité personnelle. Actuellement, de nombreux problèmes sont directement soumis à l'évêque. Nous espérons que cela va changer quand les évêques délégueront davantage lors du conseil de paroisse et qu'ils confieront des tâches à des personnes en particulier, y compris dans les domaines comme l'entraide, le maintien des convertis dans l'Église, la remotivation, etc. Seul l'évêque traite des problèmes nécessitant un juge ordinaire en Israël, en particulier les problèmes de dignité. Cependant, avec l'accord du membre qui désire se repentir, l'évêque peut déléguer à d'autres personnes le soin de prendre en charge l'aide à long terme qui peut être nécessaire pour des membres qui souhaitent se libérer d'une dépendance ou qui ont besoin d'aide dans leurs difficultés financières ou qui ont des différends avec d'autres familles ou tout autre problème. Là où les services familiaux de l'Église existent, l'évêque peut aussi inciter les membres à leur demander de l'aide. Le but principal de l'accroissement des responsabilités des conseils de paroisse est de permettre à l'évêque, en tant que président de la prêtrise d'Aaron, de passer plus de temps avec les jeunes et les jeunes adultes pour les fortifier et leur éviter de futures difficultés. Le chapitre 16 du tome 2 du manuel d'instruction enseigne aux dirigeants de la prêtrise des secours qu'ils doivent porter plus d'attention aux besoins des jeunes adultes seuls. En général, les présidents de pieux et les évêques reçoivent la tâche spéciale d'identifier, de localiser et de suivre tous les jeunes adultes seuls. Souvenez-vous qu'ils peuvent servir dans des appels de l'Église exigeants. Dans les rapports trimestriels de paroisse et de pieux, il y a deux nouvelles lignes destinées à les aider dans cette tâche. Chaque unité indiquera maintenant le nombre total de jeunes adultes seuls et le nombre de jeunes adultes seuls qui assistent aux réunions de la prêtrise et de la société de secours. Ce rapport suppose que les dirigeants locaux feront une liste nominative de tous les jeunes adultes de leur unité et qu'ils noteront leur assistance aux réunions dans le but de les identifier et de les suivre dans leur progrès spirituel individuel. En général, les évêques le feront plus efficacement s'ils, premièrement, font appel à l'esprit et au discernement auquel ils ont droit. Deuxièmement, utilisent le conseil de paroisse non seulement pour résoudre les problèmes, mais aussi comme moyen de prévention. Harold Billy a enseigné, je cite, « Il vaut mieux installer une clôture en haut d'une falaise que garer une ambulance en bas. » Fin de citation. Une des importantes responsabilités du conseil de paroisse est de discerner comment l'œuvre du salut peut réduire les futurs problèmes. Discuter des solutions sans donner de nom ou exposer les problèmes moraux spécifiques. Troisièmement, les évêques et les membres du conseil de paroisse doivent établir des priorités pour les membres qui bénéficient d'un suivi sous forme de conseil ou d'assistance. Cela demande un peu d'explication. Pour savoir comment établir des priorités et comment déléguer, une analogie médicale peut être utile. Quand une personne a subi un grave accident et qu'elle est amenée aux urgences, un observateur non compétent peut considérer que le problème médical qui exige une attention immédiate est un bras ou une jambe fracturée. Mais le médecin urgentiste qualifié va contrôler en premier les signes vitaux. Le patient peut-il respirer? Le système circulatoire fonctionne-t-il correctement? C'est ensuite seulement que le médecin va s'occuper du membre fracturé. Les évêques et les membres du conseil de paroisse doivent agir avec discernement pour définir les priorités, déterminer quels sujets doivent être traités par l'évêque et lesquels peuvent être délégués. Veuillez prendre le chapitre 13.1 sur les activités. Les activités de paroisse, de pieux et multipieux réunissent les membres de l'Église en tant que concitoyens des saints. En plus de détendre et de distraire, elles doivent édifier le témoignage, fortifier les familles et favoriser l'unité et la progression personnelle. Les activités doivent aussi aider les membres à constater que vivre l'Évangile apporte la joie. Ce chapitre fournit une nouvelle approche de la planification et la réalisation des activités. Il n'y a plus de comité d'activité permanent au niveau de la paroisse. Dans la section 13.2.1, au milieu du deuxième paragraphe, nous lisons Quand une activité est destinée à l'ensemble de la paroisse, l'épiscopat peut en confier la responsabilité à une ou plusieurs organisations représentées au conseil de paroisse. On peut aussi confier la responsabilité d'une activité à d'autres personnes ou à un comité. Normalement, ces responsabilités sont limitées à une activité ou à une manifestation spécifique. Ce chapitre donne également des instructions concernant la planification des activités, contient des directives générales pour les activités de pieux, multipieux et interrégionales. Le président Monson encourage fortement un certain nombre de ces activités. Ces activités fortifient spécialement les jeunes et les jeunes adultes et leur donnent la vision qu'ils appartiennent à une génération juste et unie qui peut résister aux tentations du monde. Prenez maintenant le chapitre 17, Uniformité et adaptation. Ce nouveau chapitre s'adresse particulièrement aux branches, aux paroisses qui, du fait du petit nombre de leurs membres, ont du mal à faire fonctionner le programme complet de l'Église. Les têtes de section de 17.1.1 jusqu'à 17.1.10 établissent clairement quels sont les domaines qui doivent être uniformes dans toute Église. Cela comprend des sujets tels que les Écritures, les commandements et les principes, la pureté de la doctrine, la réunion de la Sainte-Seine et le déroulement des réunions du dimanche et d'autres sujets de même importance. L'uniformité dans ces domaines amènera à l'influence du Saint-Esprit dans la vie des dirigeants et des membres. La plupart de ces principes, directives et procédures uniformes sont basés sur la doctrine pure. Par contre, d'autres domaines peuvent être adaptés localement. La section 12.2 contient des principes extrêmement importants qui fixent les conditions requises pour une adaptation locale. Elle dit, les présidents de pieux, les évêques et les présidents de branche sont autorisés à faire des adaptations simples à certains programmes de l'Église. Lorsque c'est nécessaire, ces adaptations peuvent être faites comme suit. Premièrement, dans le nombre de personnes appelées dans les auxiliaires et dans leurs programmes. Deuxièmement, dans la forme et la fréquence des réunions du dirigeant. Troisièmement, dans la forme et la fréquence des activités. Lorsqu'ils réfléchissent aux adaptations qui leur semblent appropriées, les dirigeants doivent toujours rechercher l'inspiration de l'Esprit et consulter leur autorité présidente immédiate. Les titres de cette section donnent la liste des situations à prendre en considération pour mettre en place des adaptations locales. Situation familiale, moyens de transport et de communication, taille de collège ou de classe réduite, possibilité de trouver des dirigeants, pas assez de membres par exemple, et sécurité. Pour donner un exemple, prenons la section 17.2.1, dont le titre est « Situation familiale ». Lorsqu'ils donnent un appel, prévoient des réunions de dirigeants et planifient des activités, les dirigeants prennent en compte la situation familiale des membres. Le service dans l'Église et la participation à la vie de celle-ci comportent toujours une part de sacrifice. Cependant, les familles fortes sont indispensables à l'Église et l'on ne doit pas demander aux membres de faire des sacrifices familiaux excessifs pour servir ou soutenir des programmes ou des activités. Fin de citation. Les situations à prendre en compte sont entre autres, premièrement, le trop grand nombre d'appels au sein d'une même famille, particulièrement des appels importants, et deuxièmement, les exigences auxquelles les membres doivent faire face pour subvenir aux besoins de leur famille, entre autres des horaires de travail qui laissent peu de temps pour la famille et le service dans l'Église. Ce sont des situations légitimes à prendre en compte par les dirigeants dans leur réflexion au sujet des appels, des réunions de dirigeants et de la planification des activités. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de membres qualifiés pour s'occuper de tous les postes de dirigeants, les officiers présidents peuvent pourvoir uniquement ceux qui sont essentiels. Des instructions supplémentaires sur ce sujet sont données dans la section 17.2.4. Frère Hawkes a dit que ces manuels d'instruction sont centrés sur le salut des enfants de Dieu et le renforcement des familles. À cet égard, j'attire votre attention sur quelques changements importants qui affectent les pères quand ils accomplissent les ordonnances de la prêtrise ou qu'ils donnent des bénédictions. Veuillez prendre le chapitre 20, la section 20.1.2, qui énonce le principe général. Nous lisons, Seul un détenteur de la prêtrise de Melchisedec, qui est digne de détenir une ordination à l'usage du temple, peut être le porte-parole pour confirmer une personne membre de l'Église, conférer la prêtrise de Melchisedec, ordonner un frère un office de cette prêtrise, ou mettre à part une personne pour un appel de l'Église. Maintenant, notez soigneusement les deux paragraphes suivants. Selon les directives de l'Esprit et les instructions données au paragraphe suivant, l'évêque et le président de pieux peuvent autoriser un détenteur de la prêtrise qui n'est pas pleinement digne d'aller au temple à accomplir certaines ordonnances et certaines bénédictions ou à y participer. Cependant, les officiers présidents ne doivent pas l'autoriser si le détenteur de la prêtrise a commis des péchés graves non résolus. L'évêque peut autoriser un père qui détient la prêtrise de Melchisedec à donner un nom à ses enfants et à les bénir, même s'il n'est pas complètement digne d'aller au temple. De même, l'évêque peut autoriser un père qui est prêtre ou qui détient la prêtrise de Melchisedec à baptiser ses enfants ou à ordonner ses fils à un office de la prêtrise d'Aaron. Un détenteur de la prêtrise de Melchisedec, qui est dans une situation semblable, peut être autorisé à se trouver dans le cercle lors de la confirmation de ses enfants, de l'octroi de la prêtrise de Melchisedec à ses fils, ou de la mise à part de sa femme ou de ses enfants. Cependant, il ne peut pas être le porte-parole. Notez, les deux principes importants qui sous-tendent cette section sont, premièrement, la reconnaissance du rôle éternellement significatif des pères, et deuxièmement, le discernement qui doit être exercé en justice par les évêques et les présidents de pieux. Le tome 2 du manuel d'instruction contient également de nombreux changements qui concernent l'enseignement au foyer et les visites d'instruction. Veuillez prendre la section 7.4.3, intitulé Adaptation de l'enseignement au foyer aux besoins locaux. Dans certaines régions, il peut parfois être impossible de rendre visite à chaque foyer chaque mois en raison d'un nombre insuffisant de détenteurs de la prêtrise pratiquants ou d'autres difficultés. Dans ce cas, les dirigeants donnent la priorité aux visites aux nouveaux membres, aux membres non pratiquants qui sont les plus susceptibles de répondre aux invitations à revenir à l'Église et aux membres ayant des besoins importants. Fin de citation. De plus, avec l'approbation de l'évêque, les dirigeants de la prêtrise de Melchisedec et les dirigeants de la cité de secours peuvent temporairement n'attribuer que des instructeurs au foyer ou des instructrices visiteuses à certaines familles. Ils peuvent aussi demander aux instructeurs au foyer de rendre visite à une famille un mois et aux instructrices visiteuses de rendre visite aux membres de la cité de secours de cette famille le mois suivant. Veuillez noter que ces adaptations ne s'appliquent que s'il n'y a pas suffisamment de détenteurs de la prêtrise ou si d'autres difficultés existent. Bien sûr, ces deux manuels d'instruction contiennent de nombreux autres points très importants. Je vous assure que pendant que la première présidence et le Collège des apôtres travaillaient à ces manuels, nous avons ressenti une inspiration continue. Je témoigne également que le Seigneur guidera tous ceux qui participent à cette tâche importante. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.
Thank you, President Monson.
Merci au président Monson, à frère Oaks et à frère Cook pour leurs enseignements inspirés. Maintenant, frères et sœurs, nous avons invité un groupe de membres qui servent actuellement dans des conseils de paroisse à nous montrer comment les membres d'un conseil de paroisse peuvent travailler efficacement ensemble pour répondre aux besoins des membres et accomplir les objectifs de l'Église.
Brothers and sisters,
frères et sœurs, bienvenue à la réunion du conseil de paroisse de cette semaine. Nous, l'Épiscopat, vous remercions de votre présence et votre ponctualité. Nous aimerions commencer notre réunion de ce jour en demandant à Sœur Jones, la présidente de primaire, de faire la prière d'ouverture. Merci, Sœur Jones. Frère James vous a distribué le calendrier de la paroisse contenant nos dates jusqu'à la fin de l'année. Je vous remercie de vous être coordonné avec lui pour que nous n'ayons pas à passer trop de temps sur ce sujet pendant cette réunion. J'aimerais donc vous demander de regarder rapidement le calendrier et de me dire les corrections et les changements que vous voudriez y apporter. Est-il bien en état? Bon, nous allons considérer que c'est notre calendrier jusqu'à la fin de l'année et nous allons le suivre. Frères et sœurs, avant de commencer les discussions du jour, j'aimerais simplement vous rappeler que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai observé dans nos conseils de paroisse, que nous prenons de meilleures décisions quand tout le monde participe, quel que soit le sujet ou l'appel que nous avons dans la paroisse. Donc, dans nos discussions d'aujourd'hui, n'hésitez pas à participer et à vous exprimer si vous vous y sentez poussé par l'Esprit. Si vous vous souvenez, nous avons commencé à parler du niveau général de spiritualité et d'engagement de nos jeunes. Quand nous en avons parlé la semaine dernière, nous avons trouvé que l'assistance au séminaire avait baissé et qu'il y avait le sentiment général au sein du conseil que nos jeunes éprouvaient des difficultés avec leur témoignage et l'obéissance à certains principes. Donc nous avons décidé que nous allions méditer et prier à ce sujet cette semaine et arriver préparés pour en discuter ensemble. J'espère que vous avez eu l'occasion de le faire. Je poserai simplement une question préambule à notre discussion. Que pouvons-nous faire pour faire grandir la spiritualité des jeunes de notre paroisse?
Je suis mère d'une adolescente et je m'inquiète aussi de cela. Je me demande si les parents se rendent compte de certains des défis auxquels les enfants sont confrontés. Pourrions-nous planifier de parler de ce sujet lors d'une réunion conjointe de la prêtrise et de la société de secours, un cinquième dimanche du mois? Frère, si vous dirigez la discussion et que vous communiquiez les propositions de notre conseil de paroisse d'aujourd'hui, les parents pourraient s'impliquer et préciser la vision qu'ils ont de leurs adolescents. Ensuite, avec les idées que nous récolterons, je suis sûre que nous pourrions élaborer un plan pour fortifier nos jeunes et promouvoir leur spiritualité et la vôtre.
Merci.
Frère, en plus d'une réunion avec les parents, je pense qu'il sera important d'en faire une avec les jeunes. Je parle en père, non en dirigeant de groupe, mais mes enfants aiment la réunion spirituelle qu'ils ont avec vous. Ils aiment avoir un entretien avec vous, des endroits chaleureux, et cela fait longtemps que nous n'en avons pas eu. Je suggère donc que nous pensions en planifier une où vous pourriez parler des principes de la pudeur, des sorties en couple, de l'étude des Écritures. Je pense que ça les aiderait beaucoup.
J'ai eu la même idée cette semaine. Je sais que mes enfants aiment aller aux veillées spirituelles et ils aiment la partie questions-réponses avec l'évêque. Ils aiment ce que vous leur dites.
Bien, frère, je pense qu'on est d'accord. Frère Reyes, notre greffier de paroisse, j'espère que vous prenez des notes afin que nous puissions nous souvenir de ces engagements à des tâches que nous préparons. Frère James, j'aimerais que vous fassiez la chose suivante. Trouvez-nous le prochain cinquième dimanche pour lequel nous n'avons pas encore planifié la réunion conjointe. Puis trouvez-nous un dimanche soir où nous pourrons tenir une veillée spirituelle. Et mentionnez-la pendant notre réunion d'épiscopat et nous prendrons une décision.
Très bien.
Je suggère que nous parlions dans cette discussion des avantages et des bénédictions à la fois du programme du devoir envers Dieu et du progrès personnel des jeunes filles. Je pense que si les parents sont impliqués, une fois de plus, nous aurons beaucoup plus de réussite avec nos jeunes.
Frère, concernant les jeunes gens, il y a un réel besoin d'insister sur le fait qu'ils doivent mener une vie vertueuse, apprendre et comprendre leurs devoirs de prêtrise. Je pense que cela ferait une énorme différence si nous pouvions inciter les parents à accepter la responsabilité de prendre les choses en main en ce qui concerne ces deux programmes pour les jeunes. En fait, je pense que la brochure de Le Jeune Soyez Fort constitue une base idéale pour une discussion sur le témoignage et les principes.
Frère, ce sont de merveilleuses idées. J'ai également une profonde conviction au sujet de l'œuvre missionnaire et de l'esprit spécial qu'il apporte. Nos jeunes sont aussi sensibles à l'esprit. Que diriez-vous d'inviter les missionnaires à plein temps à donner un cours pendant une réunion commune des jeunes portant sur leur mission et sur les façons simples de parler de l'Évangile à leurs amis? Chers évêques, frères et sœurs, la semaine prochaine, nous avons un conseil épiscopal des jeunes. L'épiscopat peut peut-être apporter ce sujet devant le conseil avant que nous ne finalisions notre plan.
D'accord, frère Reyes. Veuillez relire vos notes et nous rappeler quelles sont les décisions que nous avons prises jusqu'ici, ainsi que les points sur lesquels nous devons faire un suivi.
Bien, frère, voilà ce que j'ai noté jusqu'à présent. Frère James doit vérifier le calendrier pour trouver des dates disponibles pour une veillée spirituelle du dimanche et pour une réunion conjointe de la prêtrise et de la cellule de secours un cinquième dimanche du mois. Frère Smith doit également voir avec les missionnaires s'ils peuvent participer à une veillée spirituelle du dimanche ou une réunion commune de jeunes un premier dimanche du mois. L'épiscopat doit parler de cette idée au conseil épiscopal des jeunes. J'ai aussi pris quelques notes pour vous, frère, sur les programmes du devoir envers Dieu et du programme
magnifique.
Personnel.
Magnifique, merci beaucoup. C'est un bon début. Revenons dans deux semaines avec un plan, un calendrier et quelque chose que nous serons prêts à lancer et à mettre en œuvre. Le deuxième point de notre ordre du jour fait suite à une discussion que Sœur Todd, notre présidente des jeunes filles, a eue avec ses conseillères. Le sujet portait sur le problème de la révérence. La révérence dans nos réunions de Sainte-Seine, le recueillement dans la chapelle, la révérence au foyer. J'ai donc pensé qu'il serait bon que nous fassions un suivi sur ce point, parce que la semaine dernière, si vous vous en souvenez, nous avons décidé que nous voulions nous donner le temps de méditer et de prier à ce sujet avant de poursuivre la discussion. Pendant la semaine, j'ai donc demandé à Frère Glauser, notre chef de groupe des grands prêtres, s'il pouvait trouver un passage d'écriture qui nous serve de guide et de base. Frère Glauser, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Frère, j'ai réellement apprécié mon étude sur le sujet de la révérence cette semaine. J'ai appris qu'il s'agit d'un profond respect, d'une marque d'amour et de reconnaissance pour notre Père Céleste et pour toutes les missions qu'il nous a données. Dans notre alliance, nous apprenons que la révérence est une qualité importante des gens qui atteignent le royaume céleste. Si donc nous venons à nos réunions dans un esprit de révérence, nous venons pour être instruits sur notre Père Céleste et sur la manière dont nous pouvons devenir plus semblables à lui. Et c'est l'esprit de révérence qui mène à la révélation, à la croissance et au développement personnel.
Merci, Frère Glauser. Le passage d'écriture est excellent. Frères et sœurs, à partir de cette information, prenons le temps de parler, d'exprimer ce que nous ressentons. Que pouvons-nous faire pour améliorer le recueillement dans notre paroisse et dans nos foyers?
Frère, je pense que du point de vue de l'école du dimanche, nous avons noté au cours des deux derniers mois que certains de nos instructeurs se préparaient au dernier moment, juste avant d'entrer dans leur classe, ou arrivaient même un peu en retard. Cela affecte la révérence dans leurs cours. Avec votre permission, nous aimerions travailler avec ces instructeurs pour leur faire bien comprendre qu'ils ont de merveilleuses occasions d'enseigner, mais qu'ils ne peuvent pas y arriver sans une bonne préparation et sans favoriser un bon esprit de révérence en cours.
Merci, Frère Maïda. Allez-y, faites-le.
Frère Maïda, nous allons relever ce défi en tant que présidence de la Société de Secours. Nous allons encourager nos instructrices à s'assurer que leurs cours sont entièrement préparés la veille, afin qu'elles puissent assister à l'école du dimanche. Peut-être que la solution au problème de révérence commence par nous-mêmes. Peut-être devons-nous montrer l'exemple en arrivant 5 à 10 minutes en avance à l'église avec notre famille et en écoutant la belle musique d'orgue. Le prélude musical donne le ton de la réunion et nous prépare à prendre la Sainte Cène et à être nourris spirituellement par ce qui sera enseigné.
Frère, cela pourrait être une bonne chose si nous, membres de l'Épiscopat, montrions l'exemple en étant sur l'estrade 5 minutes à l'avance et en écoutant le prélude musical.
La tentation est forte pour moi de passer ce temps à serrer la main des gens, mais je pense que vous avez raison. Nous devons être sur l'estrade et montrer l'exemple.
Vous savez, cela doit commencer au foyer. Donc je pense que si nous voulons réellement avoir un meilleur niveau de révérence de la part de tous les paroissiens, nous devons informer les parents et leur dire quels sont les objectifs de la paroisse. Ce serait bien si nous pouvions avoir une plus grande révérence dans nos soirées familiales et nos prières en famille. Je pense que cela commence au foyer. Il y a des chances que cela continue à l'église.
Frère, je sais en quoi la prêtrise d'Aaron peut également s'améliorer. Par exemple, je pense que les instructeurs peuvent venir à l'avance préparer la Sainte Cène, afin qu'eux aussi puissent écouter le prélude musical et ne pas déranger l'assemblée. Je pense aussi que ce serait une bonne chose que les diacres et les prêtres soient assis à leur place, prêts à bénir et distribuer la Sainte Cène avant le début de la réunion.
Je pense que c'est une bonne remarque et je félicite notre président des jeunes gens, Frère Weber. Je pense en général que nos jeunes gens font preuve d'une grande révérence quand ils bénissent et distribuent la Sainte Cène.
Je pense que chaque dimanche, les enfants de la primaire sont très révérencieux lorsqu'ils entrent et s'assoient. La semaine dernière, je regardais le garçon Wallace entrer, les bras croisés, s'asseoir et écouter révérencieusement pendant la réunion de Sainte Cène. Ce sont de beaux exemples pour nous tous.
C'est vrai. Frères et sœurs, y a-t-il d'autres idées?
Je suis chargé de diriger la réunion de Sainte Cène le mois prochain. Que diriez-vous si nous consacrions le thème de cette réunion à la révérence et aux bénédictions qui en découlent?
C'est une excellente idée. Faisons-le. Bien, nous n'allons pas résoudre le problème de la révérence ici en conseil de paroisse aujourd'hui. J'aimerais donc simplement vous recommander d'en discuter dans vos réunions de présidence. Frère Reyes a continué de prendre des notes de ce que nous venons de dire. C'est bien. Si vous avez d'autres idées, veuillez les communiquer à Frère Reyes. Il les mettra sur sa liste principale, puis dans 2 semaines... Frère James, planifions de les ajouter à notre ordre du jour. Regardons maintenant notre ordre du jour. Il y a 2 points de la semaine dernière que nous aimerions suivre.
Frère, j'avais la tâche de faire le suivi de l'aide de la famille Wood. Nos instructrices visiteuses ont pu aller chez Sœur Wood et lui donner un message spirituel. C'est une femme charmante. Elles nous ont confié la semaine dernière que Sœur Wood et ses enfants aimeraient venir à la réunion de Sainte-Seine. Mais le mari a un travail très prenant la semaine. Et le seul moment qu'il peut passer avec sa famille, c'est le dimanche. Et il préfère que sa famille reste à la maison avec lui.
Merci.
Frère, les instructeurs au foyer n'ont pas pu fixer de rendez-vous avec la famille Wood. Cependant, frère Kelly de notre paroisse est un ami et un voisin de la famille. Il m'a dit qu'il invitait frère Wood à venir à la prochaine soirée du collège d'anciens ce mois-ci et qu'il a accepté. Frère Kelly m'a dit aussi que frère Wood ne semble pas hostile à l'église. Il est juste surchargé professionnellement en ce moment.
C'est une information précieuse. Je crois qu'il nous faut maintenir notre effort d'instruction au foyer. La primaire pourrait aussi faire quelque chose pour s'assurer que les enfants participent aux activités.
Frère, je ressens que si frère Wood peut être instruit par ses instructeurs au foyer et que cette doctrine peut s'enraciner profondément dans son cœur, ses priorités changeront et il aura envie d'aller à l'église.
Je pense que c'est une belle perspective, frère Wessensko. Je vous en remercie. Comme président des anciens, je pense que c'est là la clé, les instructeurs au foyer et leur efficacité. Merci. Jetons un coup d'œil à notre ordre du jour. La famille Madsen. Vous êtes plusieurs à avoir dit la semaine dernière qu'il y avait des malades dans la famille et que sœur Madsen a même fait un séjour à l'hôpital. Qu'avez-vous trouvé au niveau de vos auxiliaires respectives?
Frère, je me suis rendu chez eux et sœur Madsen est rentrée à l'hôpital, de l'hôpital. La maladie n'était pas grave du tout. Elle est de retour dans sa famille et les enfants allaient tous très bien cette semaine. Je pense que tout est rentré dans l'ordre.
C'est bien.
Nous avons invité l'aîné des enfants à l'activité de la primaire. Il est venu et a passé un super moment avec les autres enfants. Nous leur avons apporté quelques repas, frère. Les enfants étaient ravis d'avoir un repas chaud et sœur Madsen est enchantée de ne pas avoir à le préparer. Ma première conseillère leur a rendu visite et tout était en bonne voie.
Ce sont de bonnes nouvelles. Merci beaucoup pour ces rapports. Nous avons également à notre ordre du jour le rappel de certaines choses à suivre que frère James a noté pour nous. Il s'agit de certaines familles et personnes. Nous ne pouvons pas faire le tour complet aujourd'hui, la liste est trop longue. Nous avons à l'épiscopat établi des priorités pour certains. Premièrement, nous voudrions parler de la famille Green. Nous sommes réellement contents de voir qu'après les 6 mois d'efforts que nous avons consentis, cela fait 4 semaines d'affilée que nous les voyons venir à l'église. C'est merveilleux. Frères et sœurs Green ont accepté un appel dans l'église, ce qui est bien. Et ils commencent même maintenant à dire et à faire comprendre qu'ils seraient intéressés d'en savoir plus sur les bénédictions du temple et sur ce que cela peut apporter à leur famille.
Bien, sur ce point, il serait peut-être utile que nous invitions à assister aux cours de préparation au temple de l'école du dimanche.
C'est une bonne idée, frère Duval. Vous connaissez les Green plutôt bien. Pourriez-vous voir avec eux, et si vous le ressentez, les inviter à suivre le cours de préparation au temple?
Frère, ce sera un plaisir pour moi. Merci.
Nous resterons proches d'eux pendant leur préparation pour aller au temple en famille.
Merci des efforts que toutes les auxiliaires de notre paroisse font pour que les choses avancent dans la vie de cette famille. Merci beaucoup. La famille suivante, c'est la famille Aoki, des amis de l'Église. En début de semaine, j'ai parlé à frère Smith, notre dirigeant de mission de paroisse. Il m'a dit qu'il est possible que dimanche prochain, nous voyons cette famille à l'église pour la première fois.
Nous l'espérons, frère.
C'est merveilleux. Si j'ai bonne mémoire, ils ont 2 enfants à la primaire et un jeune qui a environ...
14 ans.
Il a l'âge d'être instructeur.
Est-ce que les enfants vont venir à la primaire ce dimanche?
Je ne sais pas, mais si c'est le cas, ce serait bien que quelqu'un de la primaire soit là pour les accompagner dans leur classe.
Très bien.
Nous devrions faire de même pour le jeune homme. Pour les parents aussi, d'ailleurs. Je suggère que chaque membre du conseil de paroisse fasse quelque chose pour aller vers eux. Apprenons leur nom, faisons un peu de leur connaissance. Cela les touchera. À qui avons-nous demandé de les accueillir pour les leçons?
Frère Briggs, les Broadman les ont accueillis chez eux avec les missionnaires à plein temps. Mais selon notre rapport de progression, 6 amis de l'Église voient les missionnaires seuls. Pouvons-nous demander au collège des grands prêtres et d'anciens de demander à chacun des 3 familles de participer à l'enseignement de ses amis de l'Église?
Frère, que pensez-vous de ces invitations? Acceptez-vous la tâche?
Ma famille peut se charger d'une des familles et je trouverai 2 autres familles. Nous serons heureux de participer également.
Frère Smith, pourriez-vous coordonner avec les missionnaires lors de votre réunion hebdomadaire? pour vous assurer que nous désignons des familles. Ensuite, vous informerez l'épiscopat. Puis ce serait bien de dire à Frère Briggs quelles sont les familles qui ont été désignées, afin que nous puissions leur envoyer une invitation spéciale et les encourager à saisir réellement l'esprit missionnaire, qui est une force dans notre paroisse lorsque nos membres sont impliqués. La famille suivante vient de se faire baptiser. Il s'agit de la famille Garcia. On est heureux de les avoir comme membres de la paroisse. J'ai remarqué que cela fait déjà quelques semaines qu'ils sont dans la paroisse. Et je pense qu'il serait utile que nous discutions en conseil de paroisse leur progrès.
Bien, frère, j'ai l'impression que tout se passe plutôt bien pour eux dans la paroisse. Cependant, je me suis dit qu'un peu plus d'intégration leur ferait du bien.
En fait, j'ai vérifié leur registre ce matin, frère, et j'ai vu qu'ils n'avaient pas encore d'instructeur au foyer attitré.
En fait, frère Reyes, nous leur avons attribué des instructeurs au foyer très solides, comme nous le faisons toujours avec les nouveaux convertis. Je vous donnerai leurs noms après la réunion, si vous le voulez, pour que vous puissiez les noter. Toutefois, j'ai aussi remarqué, comme frère James, qu'ils étaient un peu isolés à l'église. Je pense qu'ils ne sont pas se sont pas encore vraiment fait des amis dans la paroisse.
Vous savez, sœur Bénion, je pensais que pour sœur Garcia, en plus des instructrices visiteuses, nous pourrions demander à deux autres sœurs de se lier d'amitié avec elle. Cela lui permettrait peut-être de se sentir plus de lien avec les membres de la paroisse.
Oui, j'aime cette idée. Nous aimons les nouveaux convertis et serions simplement heureuses, nous les sœurs, de l'entourer et de l'accueillir. En présidence, nous réfléchirons à deux ou trois sœurs qui feront sa connaissance. Ils se lieront d'amitié avec elles et les aideront à se sentir bien dans la paroisse. Je demanderai aussi à l'une d'elles de veiller à l'inviter à l'activité de milieu de semaine dans deux semaines.
Bien.
Frère, leurs deux frères viennent de réunion de prêtrise, mais pas aux activités d'échange. Cette semaine, on va les inviter à faire une partie de football. Nous avons invité.
Excellent, merci. Mais il me semble, si j'ai bonne mémoire, que frère Garcia a un garage automobile. Je me demande s'il n'y aurait pas un moyen que nos jeunes gens se mettent en relation avec frère Garcia.
C'est une idée géniale. Nous pourrions peut-être lui demander d'organiser une soirée métier dans son garage ou nous aider à le faire. En fait, je pense que ce serait amusant que les jeunes gens puissent y assister, visiter son atelier, peut-être voir en quoi consiste son métier et comment il répare les voitures.
Attendez, frère Weber, n'oubliez pas les filles. Que diriez-vous de faire une activité commune aux jeunes gens et jeunes filles? Je pense que ce serait utile pour les filles de savoir comment changer une roue ou faire d'autres petites choses sur les voitures.
Elles aussi devraient connaître ces choses.
Nous nous assurons que toute la famille est invitée à l'activité du collège des anciens à la fin du mois.
Frère, j'ai fait connaissance de la famille Garcia. Ils sont formidables et je sais qu'une fois qu'ils sentiront l'amour, l'affection et le soutien des membres du conseil de paroisse, lorsqu'ils auront un appel, ce seront des membres de l'Église très forts.
J'ai hâte de voir le résultat. Frère Reyes a continué à prendre des notes. Donc, après la réunion, je vous suggère de comparer vos notes aux siennes parce que nous avons échangé de bonnes idées et donné des tâches. Assurons-nous que le suivi soit fait. Encore une fois, ce ne sont que des idées. Je pense que la véritable clé, ce sera de voir, lors de nos réunions de dirigeants, comment nous allons faire pour que la famille Garcia ait le sentiment de faire partie de la paroisse, qu'elle soit complètement intégrée et qu'elle ressente l'esprit de ce que nous avons à donner en tant qu'amis et voisins. Merci beaucoup à tous. Bien, nous avons aussi sur notre liste plusieurs familles que nous essayons d'aider de sauver. Aujourd'hui, nous avons le temps seulement de parler des Young. J'ai beaucoup songé à eux. Vous savez, jusqu'à il y a un an, on les voyait à l'église tous les dimanches, sans faute. Aujourd'hui, nous commençons à voir une lente dérive dans leur niveau d'engagement. Il y a deux semaines, j'ai croisé Frère Young par hasard, et j'ai cru comprendre dans ce qu'il disait qu'il voulait que lui et sa famille retournent sur le bon chemin. J'ai même ressenti que les bénédictions du temple pourraient être une source d'inspiration, de motivation, pour retrouver son enthousiasme dans l'Église. D'où ma question. Qu'est-ce que le conseil de paroisse peut faire, nous tous ensemble, pour aider Frère Young et pour que sa famille soit plus à l'aise à l'idée de revenir vers nous?
Vous savez, frère, ils ont deux enfants en âge d'aller à la primaire. Pourquoi la primaire ne trouverait-elle pas une idée pour les aider à revenir à l'église?
Je peux faire quelque chose. Je vis tout près de chez la famille Young, une famille extraordinaire. Comme nous sommes voisins, je pense que les enfants me connaissent suffisamment bien et n'auront pas d'appréhension.
Je pense que c'est une très bonne idée de commencer par ces petites filles. Pour le garçon, je crois qu'il fait des études secondaires. J'ai cru comprendre qu'il s'en sort pas si bien que ça.
Frère, je connais très bien le directeur de son établissement. Je propose de le rencontrer et de voir s'il pense que ce jeune homme serait réceptif à l'idée d'avoir une aide ou des conseils.
Magnifique.
Le fils de mon assistant est un élève, je pense qu'il peut aider.
Nous dire ce qu'on peut faire lors du prochain conseil.
Est-ce que quelqu'un sait si on l'a invité à faire le séminaire?
Je pense que c'est une bonne idée.
J'aimerais moi aussi faire quelque chose. Nous avons une activité de la société de secours dans 2 semaines. Et j'aimerais inviter personnellement Sœur Young et passer la chercher si possible. Vous savez, frère, je ne sais pas si vous êtes au courant que nos maris travaillent ensemble. Et John et frère Young ont d'excellentes conversations sur l'évangile pendant le déjeuner. John est stupéfait de sa compréhension des Écritures qui remonte à l'époque où il était missionnaire. Il a peut-être besoin d'une occasion de servir, peut-être comme instructeur.
Vous savez, frère, c'est peut-être quelque chose à quoi l'épiscopat doit réfléchir. L'idée d'un appel d'instructeur est peut-être la clé. Nous allons y penser, prier à ce sujet, méditer. Et si nous pouvons trouver la bonne occasion, l'épiscopat fera en sorte de lui donner un appel dans ce sens. Merci beaucoup. Je pense encore une fois que plus nous parlons dans nos réunions individuelles de dirigeants, plus nous trouverons d'occasion d'encourager les Young. Je crois que si nous recherchons l'Esprit, notre Père Céleste touchera notre cœur et nous verrons les Young redevenir pratiquants. Au fond de moi, j'en ai le témoignage, car j'ai entendu Frère Young exprimer son témoignage à sa manière. Merci encore de tous vos efforts. Frère Yes, pensons à distribuer cette idée la semaine prochaine. D'accord?
Ce sera fait.
Ce sera fait.
Merci beaucoup. Une autre personne dont nous voulions parler est Sœur Turner. Je crois comprendre que les instructrices visitistes de Sœur Turner sont allées chez elle. Elles ont rapporté que sa petite maison n'est pas bien entretenue. Je pense que ça a dû être difficile pour elle d'entretenir sa maison depuis le décès de son mari, Frère Turner. Comme vous le savez, dorénavant, le conseil de paroisse traite les questions qui étaient traitées auparavant par le comité d'entraide de paroisse. Sœur Turner m'a donné son accord pour que nous parlions de ses besoins en conseil de paroisse afin de voir ce que nous pouvions faire. Quelles sont vos suggestions?
Vous savez, je pense que les jeunes filles peuvent faire quelque chose. Il y a quelques semaines, nous avons pu aider une autre sœur de la paroisse à faire un peu de nettoyage. Nous pouvons faire pareil. En fait, les jeunes filles aimeraient connaître Sœur Turner et faire quelque chose pour elle. Bon, si vous nous laissez aller voir le garage, nous vous laisserons désherber avec nous.
Très bien. Je pense que le plus gros problème qu'on m'a signalé, c'est la fuite dans la toiture.
Frère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un chez les grands prêtres qui s'y connaissent en toiture, mais je vérifierai, je vous tiendrai au courant.
Frère Brooks, du collège des anciens, peut peut-être faire quelque chose. Nous avons essayé de chercher des moyens de l'aider à être un peu plus actif dans le collège et à mieux comprendre ses devoirs de prêtrise. Je pense qu'une occasion de servir lui ferait du bien. Jusqu'à il y a 2 ans, Frère Brooks était couvreur à plein temps. J'ai cru comprendre que 2 jeunes gens de la paroisse ont travaillé pour lui à temps partiel. Je vais lui demander s'il est disposé à rendre service.
Bien. Coordonnons cela avec Frère Glauser parce que Sœur Turner dépend du groupe des grands prêtres pour l'instruction au foyer. Frère Glauser, pouvez-vous vous charger de superviser ce que nous pouvons faire pour Sœur Turner et sa maison? Je pense qu'on peut dire que les clés sont l'implication du plus grand nombre d'auxiliaires de la paroisse et le travail bénévole. Voulez-vous bien établir un plan, faire votre rapport au conseil et nous verrons ce que nous pouvons faire pour elle?
Bien sûr, ce sera un plaisir de nous aider, de la coordonner et de vous exposer notre plan lors de la prochaine réunion.
Frère, saviez-vous que Sœur Sayers s'est tombée, s'est cassée la jambe? C'était une vilaine chute, mais elle est bien entourée par sa famille. Je pense quand même qu'elle apprécierait que la prêtrise vienne lui donner la Sainte-Seine.
Frère Weber, pouvez-vous vous en occuper et demander à 2 jeunes gens d'aller lui donner la Sainte-Seine?
Très bien, ce sera fait.
Bien.
Oh frère, j'ai 2 choses confidentielles à vous dire après la réunion. Pouvons-nous nous voir pendant environ 5 minutes?
Oui, avec plaisir.
Très bien, merci.
Je vous en prie, merci. Frères et sœurs, cela conclut notre réunion aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler 2 choses. Premièrement, tout ce dont nous avons parlé, doit rester confidentiel sur tout ce qui touche aux personnes et aux familles. C'est sacré pour notre Père Céleste. Et tout ce que nous disons doit demeurer sacré. L'Épiscopat se joint à moi pour vous exprimer le grand amour et la reconnaissance que nous éprouvons pour le service que vous rendez aux membres de la paroisse, pour votre disposition à venir ici pour parler dans l'amour et la franchise et pour le souci que vous avez d'être une bénédiction dans la vie des membres de notre paroisse. Frère James, voulez-vous faire la prière de clôture? Merci.
Thank you, brothers and sisters.
Merci, frères et sœurs. M. Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres, va maintenant diriger un débat sur l'application et sur certains des principes contenus dans le nouveau manuel. Les participants à ce débat seront M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland et David A. Bednar, du Collège des Douze Apôtres. Walter F. Gonzalez, de la présidence des 70, et sœur Julie B. Beck, présidente générale de cette secours. Après le débat, nous entendrons un message de clôture de Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres. Après son message, nous conclurons cette réunion en chantant ensemble, sous la direction de Sir Watkins, le cantique numéro 42, Quel fondement ferme. Ensuite, Sir Bonnie Parkin, du pieu de Parley en Utah, fera la prière de clôture. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre réunion d'aujourd'hui et nous prions pour que ces nouveaux manuels, ainsi que la formation, soit une forme de bénédiction pour les membres de l'Église dans le monde entier. Frère Ballard.
Merci, Frère Perry. Je pense qu'on devrait tout d'abord dire, en tant que participant à ce débat, que Frère Richards, l'évêque et son conseil ont fait un excellent exposé. J'aimerais aussi dire que ce que nous avons appris de Frère Oakes et de Frère Cook, ainsi que de notre président bien-aimé, a été une expérience merveilleuse. Alors, nous sommes reconnaissants de pouvoir participer à ce débat, et la première question que j'aimerais poser est celle-ci. En réfléchissant à ce que nous venons de voir avec le conseil de paroisse, quelles sont certaines des choses que vous avez trouvées particulièrement bien faites? Sœur Beck?
Eh bien, je pense qu'il a été très bien illustré le verset de Doctrine et Alliance, la section 88, le verset 122. Je dis cela parce que tout le monde peut emporter les Écritures chez soi et cela permet d'évaluer ce qui s'est passé. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent ce qu'elle dit, afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous et que chacun est un droit égal. J'ai vu cela en action dans cette réunion de conseil et cela a engendré un merveilleux sentiment d'édification.
Très bien. Quelqu'un d'autre? Frère Holland?
Le président Manson l'a présenté. Puis Frère Oakes et Frère Cook ont tous les deux insisté sur ces merveilleux chapitres d'introduction dont l'un d'eux se concentre sur la famille. J'ai pensé que ce conseil a bien fait de toujours revenir aux parents, plutôt que de demander immédiatement quelle activité une organisation pourrait fournir, ou une auxiliaire, ou le collège, bien qu'on ait besoin d'en parler en partie. Ils sont revenus à maintes reprises, régulièrement, je les observais, et j'ai compté le nombre de fois, ils sont revenus à maintes reprises aux parents, et à la manière dont ils pouvaient impliquer les parents et fortifier le foyer. J'ai trouvé ça formidable.
J'ajouterais que pendant le... J'ajouterais que pendant tout le conseil, ils se sont constamment concentrés sur les personnes, pas sur les programmes. Et ils prenaient soin des personnes et des familles. Je pense que c'est l'esprit dans lequel est conçu le nouveau manuel.
Oui, je pense que c'est très clair. Leur niveau de participation favorisait la révélation. Et le suivi était aussi pour moi un grand moment. Il y avait des choses, des idées, mais le principe du suivi était si évident que ces idées se transformeront en actes.
Je pense que nous avons vu un très bon exemple de la façon dont un évêque peut diriger, mais sans dominer ce qui se passe dans un conseil. L'évêque a davantage écouté que parlé. Et franchement, j'ai assisté à pas mal de conseils de paroisse et de pieux où le dirigeant de la prêtrise dit « Voilà le problème. Voilà ce que nous devrions faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et personne ne dit rien, et bien pas étonnant. Et là, nous avons un évêque qui présente le problème et en explique les facettes. Il pose une question pertinente et inspirée, puis il écoute plus qu'il ne parle.
Ce sont d'excellents points. Quand nous réfléchissons au conseil de paroisse et à ce nouveau manuel, quel en est l'objectif de tout cela? Qu'essayons-nous d'accomplir en tant qu'Église? Et en quoi cela s'applique-t-il à un conseil? Qu'essayons-nous de faire?
Si je ne vous interromps pas trop tôt, je pensais que Frère Oaks avait abordé ce point dès le début de ses remarques préliminaires, à savoir que nous sommes engagés dans l'œuvre du salut. Et nous tentons de ne pas faire trop de divisions de responsabilités, de ne pas faire trop de catégories, de ne pas créer des lignes de division et des frontières qui nous rendent difficile le passage ou la traversée. Il est allé directement aux déclarations prophétiques, les déclarations scripturaires, selon lesquelles nous occupons de l'œuvre du salut. J'ajouterai rapidement que pour moi, c'est une des perles du chapitre 5. J'anticipe un peu peut-être le reste du débat, mais le chapitre 5, intitulé « L'œuvre du salut », intègre l'œuvre missionnaire, le maintien des convertis dans l'Église, l'œuvre du temple, l'enseignement. Il me semble que c'est symboliquement ou littéralement un immense pas en avant dans ce manuel.
Frère Ballard, c'est ce à quoi j'aspire. En observant ce conseil, tout semblait parfait. Et je me suis demandé si certains d'entre vous, nous tous qui avons observé ce conseil, n'ont pas pensé ce n'est pas comme ça chez nous, nous n'agissons pas avec perfection. Et ce que j'ai aimé dans l'exemple fourni par ce conseil, c'est que nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur la question de savoir si c'est parfait. Ils avaient les procédures en place pour avoir un bon conseil. C'est le modèle qu'ils nous ont présenté. Ils étaient unis. Ils se concentraient sur le ministère. Ils avaient un but à l'esprit.
C'est, je pense, la caractéristique d'un grand dirigeant dans quelque organisation que ce soit. Quelqu'un qui comprend qu'il y a un problème, mais qui a la capacité d'utiliser toutes les ressources que le Seigneur a fournies. Et nous entendons fréquemment dire que les évêques sont surchargés. Et c'est le cas s'ils ne prennent pas le temps de comprendre ce principe. S'ils comprennent le principe de la fonction du conseil de paroisse, ils ont pas mal d'aide disponible. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent encourager le dialogue. Ils peuvent susciter les avis, l'inspiration, la révélation. Elle viendra des hommes et des femmes et portera sur les problèmes pour lesquels l'évêque se sent dépassé. Je trouve que l'évêque a bien agi dans ce conseil. Une des autres choses que nous devons retirer de cela, je pense, c'est que la présidence de la société de secours est un conseil. La présidence de l'école du dimanche est un conseil. Chacune des personnes qui étaient présentes va retourner à son propre conseil, espérons-le, et parler des choses qui préoccupaient le conseil de paroisse. Et dans ce cadre, si elles le font, reviendront-elles, pensez-vous, avec encore davantage de propositions et de meilleures idées?
C'est l'œuvre du salut, et le conseil est le cadre propice à l'inspiration. Voilà pourquoi l'unité et la confidentialité sont si importantes. Nous ne pouvons pas recevoir l'inspiration si nous ne sommes pas unis et si nous ne respectons pas des confidences sacrées.
Vous savez, il m'est venu à l'idée, Frère Ballard, que cela doit aller dans les deux sens. Il est sûr que ce conseil ne peut pas accomplir tout ce qui lui a été assigné. S'ils essaient de faire tout cela par eux-mêmes, ils vont probablement être surchargés comme l'était l'évêque. Alors il faudra qu'ils se réunissent avec leur propre conseil. Il faudra qu'ils diffusent ce concept. C'est excellent pour la participation. J'ai aussi aimé ce sur quoi a insisté Frère Cook dans sa remarque préliminaire. C'est-à-dire qu'il faut de la planification, de la préparation avant de venir. Et tout ne peut être résolu ailleurs doit l'être ailleurs ou avant. Et nous commençons à cerner le problème et à repartir la responsabilité. Souvent, cela se fera par un conseil ou un autre que celui de la paroisse. Pas seulement au niveau d'un conseil, comme celui d'une présidence ou d'un épiscopat, mais le principe était clair dans le modèle que nous avons vu lorsque l'évêque Floyd Charles a dit « Je vous ai donné la tâche de réfléchir à quelque chose. » Donc, ils recevront aussi individuellement de l'inspiration avant le conseil.
Personne ne connaît toutes les réponses à chaque question. Mais lorsque le système des conseils fonctionne, nous avons la possibilité de faire appel à l'inspiration des différents membres du conseil et même des membres de la paroisse. Si nous procédons correctement, chacun reste attentif et peut entendre quelque chose en dehors de sa réunion de présidence, à l'occasion d'une visite d'instruction au foyer ou d'enseignement, qui résout le problème sur lequel se penchait le conseil.
Frère Ballard, je pense aux nombreux endroits où je me suis rendu dans le monde et j'ai parcouru, comme vous, le monde entier. En étudiant ce que le Seigneur attend des conseils et par rapport à l'exemple qui nous a été donné, je pense que la capacité de se réunir en conseil à la façon du Seigneur va à l'encontre de ce qui se fait dans les cultures du monde. C'est difficile dans les familles et dans les foyers. C'est difficile pour tout le monde. Mais quand nous acceptons l'évangile de Jésus-Christ et que nous faisons des alliances, il devient notre modèle. Et nous commençons peu à peu à essayer de nous adapter à sa culture, à ses voies et à son modèle, quant à la manière de parler et de communiquer entre nous. Je ne pense pas que quiconque devrait être découragé s'il n'est pas parfait dans sa façon de tenir conseil à la manière du Seigneur. À chaque réunion de conseil à laquelle je participe dans ma propre présidence, j'essaie de me demander comment puis-je avoir un conseil meilleur que celui de la semaine dernière? Quelle est la chose dont je vais assumer la responsabilité pour améliorer cela avec mes conseillères? Et nous avons fait mieux cette semaine que la semaine dernière. Et nous nous sommes améliorés ce mois-ci. Et nous cherchons à obtenir un nouveau don spirituel, pour ainsi dire. C'est un don spirituel du Seigneur de savoir comment travailler à sa manière. Nous ne devons pas nous décourager. Nous recevons ligne sur ligne et nous progressons pas à pas. Nous nous aidons les uns les autres à développer ce don.
Frère Gonzalez, parfois l'évêque se sent comme ça parce qu'il est l'évêque, qu'il doit tout savoir.
Parfois, et quelquefois, on peut trouver des évêques qui suivent ce principe. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est un exemple parfait pour nos auditeurs. Lorsque l'évêque a dit, et j'aime vraiment ce qu'il a dit, « Que pensez-vous que nous puissions faire ?» Après cette question, il a écouté leurs opinions, ce qu'ils en pensaient, et il s'est exprimé après avoir écouté les membres du conseil. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé formidable qu'il ait aussi, ainsi que certains de ses conseillers, fait l'éloge de leurs commentaires. C'est très important dans toutes les cultures. Et c'est toujours une bonne chose de complimenter les autres pour leurs contributions et leurs bonnes idées. Cela apporte l'unité et construit une solution. Et bien entendu, cela favorise la révélation et l'inspiration. Les personnes se sentent plus à l'aise pour faire part de leurs meilleures idées. Et cela ouvre la porte à un plus grand déversement de l'esprit.
Je pense que nous entretenons à tort la notion que chaque élément de la révélation que la paroisse doit venir par l'intermédiaire de l'évêque, parce qu'il détient les clés. Il doit les reconnaître et s'en servir, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est le seul canal de la révélation. Ainsi, dans ce conseil, dans la mesure où règne un sentiment d'unité et que l'on agit sous l'influence de l'esprit, les contributions de tous les membres du conseil ajoutent des éléments à l'inspiration. Ainsi, le conseil ne décide pas. Ça ne veut pas dire qu'il participe simplement au processus de décision. C'est un modèle inspiré que l'évêque, en vertu des clés qu'il possède, doit diriger. Mais il ne reçoit pas chaque iota et chaque trait de lettre de la révélation.
Parfait. Bon exemple.
Une des questions culturelles que nous connaissons tous et qui a été abordée sans détour, et cela n'était pas prévu, mais de manière spontanée, par inspiration, c'est que les femmes ont pris la parole. Ces femmes étaient totalement impliquées. Nous n'avons pas toujours été aussi disposés, aussi enclins que nous le devrions, à écouter les femmes qui siègent dans le conseil. Pour moi, ces femmes étaient fantastiques. et j'ai participé à ce réunion de conseil avec Sœur Beck pour savoir combien elle est formidable. Alors, si jamais quelqu'un pense que cela pose un problème, surmontons-le. Il nous faut l'aide des femmes. Puis-je ajouter quelque chose? Ce principe dont on parlait s'applique au-delà des conseils de paroisse et même de l'administration de l'Église, parce que ces principes peuvent être utilisés dans la vie de famille. Le fait d'écouter les sœurs, les épouses et les enfants fait partie de ces principes. Cela apporte l'unité dans l'Église et la cohérence dans la manière d'agir, quel que soit l'endroit.
Le système du Conseil fonctionne depuis le Conseil de la Première Présidence au Collège des Douze Apôtres, qui est un conseil, aux sept présidents des 70 qui forment un conseil, aux 70 qui font partie des différentes présidences interrégionales qui forment un conseil. Ce système fonctionne dans le pieu où il y a un conseil, dans la paroisse, dans le collège et au foyer. Et le dirigeant du conseil, quel qu'il soit, doit être disposé à écouter. Je pense qu'il s'agit là d'une des grandes caractéristiques d'un dirigeant de conseil qui absorbera les ressources et qui acceptera l'aide disponible s'il est disposé à écouter les recommandations des personnes qui reçoivent la révélation, et cela indépendamment du fait qu'ils soient à la tête de l'organisation.
Si l'on réfléchit à l'exemple donné par ce conseil, je crois que le don de discernement s'exerce de manière plus efficace lorsque nous écoutons que lorsque nous parlons. Et donc, si l'officier président se met dans une position où il guide et dirige sans dominer, alors il est davantage susceptible de recevoir le don de discernement en ce qui concerne ce qui se produit.
Cela s'applique à chaque membre du conseil. Il est possible que même une sœur ou un autre membre du conseil ait tendance à dominer la conversation. Alors, le dirigeant du conseil doit en enseigner l'objectif. Et nous avons une belle démonstration, je pense, dans ce que nous venons de voir.
Frère Ballard, je ne veux pas en faire trop, mais je pense vraiment qu'un des points sur lesquels nous devons insister, que nous devons enseigner dans l'Église au cours des nombreux mois à venir, c'est que nous devons venir en aide aux évêques surchargés. C'est un des buts de la discussion que nous sommes en train d'avoir. C'est certainement un des buts du manuel. Et j'ai été ravi de cet échange d'idées. Je ne sais pas qui a pensé ou si c'était spontané, mais est-ce que c'était Sœur Madsen qui était malade? Quelqu'un était malade, quelqu'un avait la jambe cassée, quelqu'un avait quelque chose.
Ils avaient des problèmes,
en effet. Mais deux ou trois personnes étaient allées la voir avant l'évêque. Et l'évêque dit à ses conseillers, allons-y, voyons comment elle va. Mais c'était formidable que tout le monde dans la paroisse n'ait pas attendu de voir, par exemple, si l'évêque allait être le premier à y aller, ou sans quoi je ne fais rien avant qu'il soit allé. Personne n'aurait pensé cela, mais c'est arrivé si spontanément que j'ai pensé, super, voilà un moyen d'aider un évêque débordé et de partager les bénéfices, de partager les bénédictions.
Frère Ballard, on nous a enseigné aujourd'hui quelque chose qui me semble très important. Cette idée qu'en tant que présidence, on peut prendre soin des choses dont les présidences ont la responsabilité. Un jour, j'ai rencontré une présidente de la société de secours. Elle attendait sur le trottoir, à l'extérieur d'une maison, une petite maison modeste, et elle se tordait les mains. J'allais me rendre dans cette maison, mais elle a dit, « Je ne sais pas quoi faire, parce que je ne sais pas quelle autorité j'ai d'aider cette famille. » Il se trouve que les membres de cette famille étaient vraiment dans le besoin. Ils avaient faim, ils avaient froid, ils n'avaient pas d'eau, et elle n'était pas sûre de ce qu'elle pouvait faire. Et j'ai dit, vous êtes présidente de la société de secours. Réfléchissez un instant à ce que vous-même et vos conseillères pourraient faire immédiatement pour soulager cette famille. Puis, réfléchissez au rapport que vous ferez à votre évêque. Au fur et à mesure que je l'aidais à comprendre ce qu'elle pouvait faire avec l'aide de ses conseillères, un monde totalement nouveau s'est ouvert à ses yeux. Ses fardeaux étaient plus légers et elle n'allait pas se débarrasser d'un problème sur l'évêque. Elle commençait déjà à trouver une solution qui pouvait devenir une grande bénédiction pour une famille et pour les membres du conseil de paroisse.
C'est merveilleux quand la présidente de la société de secours ou la présidence des jeunes filles ou la présidente de la primaire arrive au conseil et dit à l'évêque, voici mon rapport. C'est ce que nous avons trouvé et c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Une partie du fardeau était automatiquement ôtée des épaules de l'évêque.
Oui, oui, il aura du mal à s'en remettre.
Je pense qu'il faut aussi être prudent. C'est-à-dire que dans notre désir juste d'œuvrer avec zèle dans ses conseils, nous ne pouvons pas enfreindre les principes d'entraide que nous essayons d'enseigner. Tout ce que nous faisons doit promouvoir l'autonomie et nous pouvons agir trop rapidement et en faire trop, ce qui aurait pour résultat de rendre les gens dépendants au lieu de les rendre autonomes.
Excellente remarque. Maintenant, je ne sais pas si vos frères avaient jamais eu l'expérience que j'ai eue dans le monde quand des gens m'ont posé des questions. Est-ce qu'on vous a déjà posé
une
question?
Jamais toute ma vie. J'attends toujours qu'on m'en pose une, d'ailleurs.
Alors, je vous en poserai une. Vous a jamais t'on posé une question dont la réponse se trouve dans le manuel?
Presque toujours. En fait, si ce n'est pas trop divulguer un secret, le secrétaire de la première présidence, notre secrétaire de la première présidence, a dit un jour qu'environ 80% des questions qui arrivent même à la première présidence ont leur réponse dans le manuel. La réponse a déjà été fournie. La vérité est que nous ne connaissons pas suffisamment nos livres.
Alors, nous allons nous conformer au principe de responsabilité. Frère Bednar, en matière d'entraide dont vous venez de parler, nous n'allons pas nous en écarter. Nous allons rester ancrés à l'endroit où se trouvent les principes de base de l'Église. Frère Gonzalez, est-ce que c'est une bonne idée?
Oh, c'est une excellente idée. Oui. Il faut que nous connaissions bien le manuel. Quelqu'un a dit que si l'on veut bien garder un secret, il suffit de le mettre dans un manuel. Alors nous espérons que ce ne sera pas le cas pour ces manuels-ci.
Nous espérons aussi, tout au moins au nom des 12, et je pense au nom de toutes les autorités générales, que nous n'entrerons jamais dans le bureau d'un président de pieu après que ces manuels ont été livrés et que nous ne les verrons pas en haut d'un meuble. Nous espérons qu'ils seront sortis et utilisés.
À l'international et quelquefois dans d'autres endroits où l'Église grandit, un des défis est de ne pas disposer de modèle sur la façon de faire les choses. Le manuel, c'est ce qui se rapproche le plus d'un modèle. Alors si nous ne sommes pas sûrs de la façon de faire quelque chose, parce que nous n'avons pas de modèle devant nous, nous avons le manuel.
Ce manuel contient la doctrine et les principes et directives pour parvenir à un jugement inspiré. Ce n'est pas un manuel du personnel. Ce n'est pas quelque chose où l'on va trouver toutes les réponses. Il contient des principes, la doctrine et des directives de base. Et étant donné le nombre de personnes dans une paroisse et dans un conseil de branche qui auront accès, c'est une bénédiction qui s'étend aux personnes et aux familles.
Frère Ballard, j'apprécie votre idée que chacun va étudier le manuel en entier. Il n'y a pas de meilleure formation que d'avoir une idée d'ensemble. Cela élimine notre vision limitée des choses et cela nous permet de voir ce que le Seigneur a en vue pour nous tous. Ce que cela a à voir avec la famille, la direction vers laquelle il veut que chacun se dirige, la manière dont l'évêque travaille et ce qu'il a besoin de faire, et finalement quel est notre rôle. Il y a un chapitre qui concerne les choses pour lesquelles nous devons être à l'unisson, la manière dont nous pouvons faire des adaptations. Et ce sont des mots importants choisis avec soin. Faire des adaptations ne nous donne pas le droit de recréer l'Église du Seigneur. Quelquefois, nous voyons tellement de créativité qu'on ne reconnaîtrait même pas l'Église du Seigneur. Il est donc important de suivre les directives sur la manière d'adapter. Parce que nous n'avons pas la permission de recréer l'Église, ni de redéfinir des principes qui ont été approuvés par la première présidence. Nous avons la permission de faire quelques adaptations si nécessaire, mais en respectant les directives.
Et cette adaptation se fait par le conseil et à l'aide de la prière, en recherchant et en obtenant l'esprit pour savoir ce qui est approprié et faisable. Est-ce qu'il est possible de faire?
Et quel est l'objectif?
Qu'est-ce qui est faisable dans notre situation? Je veux répéter cependant quelque chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne pense pas que nous devrions demander à nos auditeurs de s'asseoir et de lire le manuel d'un bout à l'autre et d'un seul trait. pourquoi ne pas l'aborder un chapitre à la fois et puis avancer de cette manière jusqu'à l'avoir entièrement lu? Et personne ne se sentira écrasé. Et puis ce sera l'occasion d'en parler d'une manière vraiment constructive. Qu'avons-nous vraiment appris dans le chapitre 1? On en reparlerait dans le cadre d'un conseil. Et je pense que dans 6 mois, les conseils de l'Église pourraient fonctionner, toute proportion gardée, au niveau là où la première présidence et le collège des 12 apôtres, grâce à l'inspiration des cieux, ont amené l'Église et ses manuels. Alors je pense que la démonstration que nous avons faite aujourd'hui est excellente. Pour conclure, frère Roland, après toutes vos années d'expérience en matière d'éducation, ainsi que votre service dans l'Église, quel commentaire aimeriez-vous faire en guise de conclusion à ce débat?
Eh bien, vous avez parlé du mot éducation. J'aimerais aborder ce sujet. Dans l'Église, nous n'utilisons pas les formes de motivation et d'encouragement qui sont courantes ailleurs dans le monde. Nous n'obligeons personne à faire quoi que ce soit. Nous ne rémunérons pas les gens. Nous ne menaçons pas de les renvoyer. Quand vous pensez à la vie en dehors de l'Église, que ce soit dans le monde des affaires, dans le domaine public ou n'importe où ailleurs, la plupart de ces formes de motivation ou de ces moyens ne sont pas en accord avec les principes de l'Évangile. Et ce n'est pas de cette façon que nous agissons dans nos conseils, dans la famille, dans les collèges, dans les paroisses, dans les pieux. Ce que nous faisons principalement, c'est enseigner. Nous sommes des instructeurs par l'exemple et par la parole. Joseph Smith, le prophète, a dit un jour, « Quand un homme agit par la foi, il agit par la parole. » Et quand Dieu a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » C'est une merveilleuse motivation, et elle se trouve dans ces manuels, présentée brillamment dans les chapitres du début du manuel, y compris l'œuvre du salut, le chapitre sur l'œuvre du salut. C'est l'enseignement. Un meilleur enseignement, un enseignement puissant, un enseignement inspiré, un enseignement humble. C'est ce qu'a fait le Sauveur. C'est la motivation et la capacité qu'il avait. Il n'a pas utilisé les voies du monde. Nous ne pouvons pas non plus. Merci d'avoir utilisé ce mot d'éducation, frère Ballard. Je ne m'entendrai pas à cela, mais je pense que nous pouvons tous essayer d'être de meilleurs instructeurs, et c'est intégré admirablement dans ce manuel.
Merci. Frère Bednar.
Si on m'accordait mon cher désir, j'aimerais retirer du vocabulaire des membres de l'Église le mot « réunion ». Nous n'avons pas parlé d'une réunion de conseil de paroisse. Nous avons parlé d'une expérience de révélation avec les membres du conseil de paroisse. Et si les membres du conseil, si les membres de famille, lorsqu'ils se réunissent, se disaient « Je vais me préparer à participer à une expérience de révélation avec ma famille au lieu d'aller à une réunion. » Une expérience de révélation avec les membres du conseil de paroisse. Je pense que nous nous préparions et agirions bien différemment. Dans ces derniers jours, étant donné les forces adversaires et des ténèbres, aucune personne dans une famille ou dans une paroisse ne sera le seul canal par lequel toutes les réponses arrivent. Alors tout cela concerne la nature spirituelle de cette œuvre et la recherche de l'inspiration pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions.
Merci. Sœur Beck?
Je pense que nous avons une occasion nouvelle, une nouvelle bénédiction de notre Père Céleste, de décider de ce qui va avoir d'importance. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Est-ce que cela va être les réunions? Est-ce que cela va être les chiffres? Est-ce que cela va être la quantité de rapports que nous avons distribués? Ou est-ce la compassion que nous allons considérer comme importante? Le fait que nous accordons de la valeur à la compassion, à l'amour, au service. Ce que j'ai vu dans ce conseil de paroisse, c'est que nous voulons savoir comment vous servez, comment vous remplissez votre ministère, qui s'est préoccupé de prendre soin des autres, qui a fortifié, qui a béni, qui a édifié, c'est ce qui compte. Nous avons l'occasion de prendre un nouveau départ en nous basant sur ce qui compte vraiment. Et le Seigneur veut que nous accordions de l'importance à ce qui compte pour lui, au ministère qu'il a accompli. Toutes les autres statistiques ont été inventées par l'homme, non par le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre chance d'accorder de l'importance.
Merci.
Lorsque je réfléchis au conseil, il y a une pensée qui me touche profondément. C'est que dans l'unité, dans la foi, nous recherchons la volonté du Seigneur. C'est une pensée merveilleuse qui se trouve dans le manuel.
Eh bien, merci. Et en résumé, lorsqu'un conseil, qu'il soit de famille ou de paroisse ou de branche, lorsqu'ils abordent un problème ou qu'ils en arrivent à la conclusion que oui, c'est ce que nous devons faire, il y a un pouvoir dans cette synergie auquel Lucifer ne peut pas faire obstacle. Il ne peut pas l'arrêter. Quand les membres du conseil quittent une réunion de conseil et disent que c'est ce qu'ils vont faire, et non, c'est ce que l'évêque veut que je fasse, c'est ce que nous allons faire, parce que nous nous sommes réunis en conseil et que nous avons prié ensemble pour cela, c'est ce qu'il faut que nous fassions pour édifier, pour inspirer, pour bénir la vie des enfants de notre Père Céleste. Quand cet esprit opérera dans le système du conseil dans l'Église, l'œuvre ira de l'avant et nous sauverons davantage d'enfants de notre Père Céleste. Les femmes sont aussi importantes que les hommes en matière d'œuvre missionnaire, de salut et d'histoire familiale. Et nous supprimons les obstacles dont nous avons parlé, et c'est une seule et même grande œuvre à laquelle nous nous attelons tous, réaliser l'immortalité et la vie éternelle des enfants de notre Père Céleste. Et je demande à notre Père Céleste de bénir les conseils de l'Église à travers le monde, dans chaque paroisse, dans chaque branche, dans chaque famille, que la paix du Seigneur soit avec eux et que les manuels et ces exemples vous soient utiles. C'est là notre prière à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette réunion de formation est de la plus haute importance. Nous avons entendu le président de l'Église et 6 membres du Collège des 12 apôtres, chacun d'eux donnant des instructions pertinentes. Maintenant, en conclusion, voici quelque chose à emporter avec vous. Ces manuels, dont la préparation a demandé beaucoup de temps et d'énergie et de très nombreuses personnes, ne doivent pas être lus comme une leçon ou comme un livre. Ce sont des livres de référence qui doivent être tout d'abord examinés soigneusement et qu'il faudra par la suite utiliser selon les besoins. Il y a un message central au début de ces rubriques d'introduction. Plan de Dieu le Père pour sa famille éternelle. La prochaine rubrique explique la famille prémortelle de Dieu. Elle décrit ensuite le rôle de la famille et le rôle de l'Église dans le plan de Dieu pour ses enfants. Il y a beaucoup de rubriques dans le manuel. Sous ces rubriques, et à travers les chapitres 1 et 2 du tome 2, une doctrine importante est soulignée. De plus, lorsqu'on les considère comme un tout, les manuels permettent maintenant la simplification et la flexibilité. Je souligne cela. La simplification et la souplesse. Parce que l'Église a grandi en taille, elle semble toujours croître en complexité. Il y a tant de programmes et tant de modalités qu'il faut harmoniser. Nous souhaitons tous avoir des modèles d'administration qui reflètent la simplicité de l'Évangile. Il y a de nombreuses années, J. Reuben Clark fils, qui parlait au nom de la première présidence, a fait une déclaration inspirée pour nous avertir qu'un excès de rigidité dans l'Église aboutirait à supprimer la révélation. L'œuvre de l'Église, dans tous les domaines, est en danger sérieux d'être réglementée jusque dans les moindres détails. La conséquence en sera que non seulement toute initiative sera étouffée dans l'œuf, mais que toute occasion d'intervention de l'Esprit sera éliminée. L'Église n'a pas été édifiée sur ce principe. Et maintenant ce simple verset. Mais en dépit de ces choses qui ont été écrites, il a toujours été donné aux anciens de mon Église, depuis le commencement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les réunions selon les inspirations et les directives de l'Esprit Saint. Je le répète, mais en dépit de ces choses qui ont été écrites, il a toujours été donné aux anciens de mon Église, depuis le commencement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les réunions selon les inspirations et les directives de l'Esprit Saint. Si nous comprenons cela, nous administrons l'Église sans nous égarer. Le Seigneur a dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Nous participons à une œuvre spirituelle et une œuvre spirituelle doit être guidée par l'Esprit. Comme nous le lisons dans les Doctrines et Alliances, et ils observeront les alliances et les articles de l'Église, et ce seront là leurs enseignements, selon qu'ils seront guidés par l'Esprit. Et l'Esprit vous sera donné par la prière de la foi. Et si vous ne recevez pas l'Esprit, vous n'enseignerez pas. De nos jours, le danger existe toujours d'établir l'Église sans établir l'Évangile. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de l'Église dans la vie des membres et de l'Évangile dans le cœur des membres. Dans les premières pages, le manuel 2 décrit le rôle des dirigeants et des instructeurs de l'Église, entre autres par ce passage. Les dirigeants et les instructeurs de la prêtrise s'efforcent d'aider les autres à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ et d'assister les personnes et les familles dans cet effort. Si nous n'y prenons pas garde, nos membres sont tellement absorbés par les programmes et les procédures, par les bâtiments et les budgets, que le témoignage spirituel n'est pas fermement enraciné. Les membres doivent être instruits par la puissance et par l'autorité de la prêtrise. Ils doivent connaître l'importance des ordonnances et comprendre la nécessité d'être dignes afin de se qualifier pour chaque ordination et pour chaque bénédiction. Je le répète, les manuels sont des livres de référence, tout comme les dictionnaires. Leur contenu est si structuré que vous serez en sécurité en les suivant, et vous serez en mesure d'élever des enfants dignes dans ces temps extrêmement troublés. Pour vivre et enseigner selon l'Esprit, nous pouvons beaucoup mieux faire qu'actuellement. Les organisations de l'Église sont là pour soutenir et pour fortifier les familles. On considère trop souvent les familles comme des instruments destinés à pourvoir en personnel les organisations et à réaliser toutes les activités énumérées comme des possibilités. Les officiers de la prêtrise doivent identifier, à l'aide de la prière, les choses à ne pas faire et s'efforcer de réduire de manière substantielle les demandes faites aux familles. Leur temps et leur argent devraient être consacrés à faire des choses qu'il vaudrait mieux faire au foyer ou en famille. Une fois de plus, mais en dépit de ces choses qui ont été écrites, c'est-à-dire quel que soit ce qui est imprimé, y compris les manuels, il a toujours été donné aux anciens de l'Église depuis le commencement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les réunions selon les inspirations et les directives de l'Esprit-Saint. En conclusion, nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui terrifiant. Si l'on considère l'influence qu'il exerce sur les saints et leurs familles, l'anniversaire se réjouit. Nous ne devons pas nous décourager. Comme les Écritures le disent, ne persévérons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frère, et courage, sœur, et en avant vers la victoire. Je demande au Seigneur de vous bénir dans vos efforts, pour faire ce qu'il faut pour que les familles de l'Église soient fortifiées, et par cela fortifier toute l'Église. Je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Our beloved Heavenly Father, we...
Notre Père Céleste bien-aimé, nous sommes bénis d'avoir été instruits par l'Esprit et nous te remercions. Nous te remercions pour le nouveau manuel d'instruction et nous prions pour qu'il bénisse les personnes et les familles. Nous nous réjouissons des conseils donnés par nos dirigeants et nous demandons à être toujours bénis par leur amour, leur gentillesse et leur compréhension. Nous sommes reconnaissants à ton Fils bien-aimé pour son amour pour nous, pour son obéissance envers toi. Et nous t'exprimons notre gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen.